France Culture.
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture. Comme chaque année en prolongement de Solae, le rendez-vous protestant, nous nous retrouvons le dimanche à 16h pendant la période du carême pour Solae, le carême protestant 2025, proposé par la Fédération protestante de France en partenariat avec l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris. Sixième et dernier rendez-vous aujourd'hui avec la pasteur Marie-Pierre Courneau de l'Église protestante unie à Paris, dans la paroisse de Montparnasse-Plaisance, et la passionnante Ruth, héroïne biblique qui nous a conduit dans une réflexion passionnante jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à écouter ou à reprendre même à nouveau les 5 précédentes émissions sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Bonjour Marie-Pierre Courneau.
Bonjour.
Et alors, me direz-vous, depuis 5 semaines que nous cheminons dans les pas de Ruth, que pouvons-nous tirer de ce petit livre de l'Ancien Testament, le livre de Ruth? Qu'y a-t-il dans cette histoire qui puisse nous parler, voire nous être utile? Qu'a-t-elle d'actuel, cette Ruth? Et en quoi sa mission nous concerne-t-elle? Et puis enfin, quel est le lien avec cette période de carême qui, depuis 5 semaines, nous conduit jusqu'à Pâques?
Au fil de nos rencontres, nous avons envisagé plusieurs axes de lecture. Il y en a certainement d'autres, et j'espère vous avoir donné envie de les défricher par vous-même. Ici, j'en reprends 3. Premier axe, le livre de Ruth est une histoire de femme. Et je crois que l'époque actuelle nous commande de faire un détour par cette analyse avant d'en envisager d'autres. Ruth est une femme du pays de Moab, une Moabite. Elle épouse un Hébreu, Malon, originaire de Bethléem, qui a émigré au pays de Moab avec ses parents et son frère en raison d'une famine à Bethléem. Au bout de 10 ans, alors que la famille est toujours en Moab, le père de famille et ses 2 fils meurent. La mère, Naomi, et sa belle-fille, Ruth, se retrouvent donc seules. Voilà, j'ai résumé les 5 premières phrases de ce livre. On sait donc très rapidement que cette histoire sera une histoire de femme, puisque les hommes sont morts dès le début. C'est ce point de départ mortel qui donne son élan à l'intrigue et mène aux 2 femmes en mouvement, au sens propre, puisqu'elles décident de rentrer à Bethléem. La Bible a sans doute été très majoritairement écrite par des hommes et pour des hommes, dans une société conçue par et pour eux. Les personnages féminins sont tout de même très nombreux dans la Bible, mais ils occupent essentiellement des seconds rôles, souvent invisibilisés par l'anonymat. Si on transposait au monde du cinéma de nos jours, on dirait qu'une partie de ces personnages féminins ne serait pas créditée au générique. Alors bien sûr, certaines femmes de la Bible ont tout de même acquis une grande notoriété. On peut citer Sarah, la femme d'Abraham, ou Jézabel, la méchante femme du roi Achab, Bethsabée, la femme du roi David, Marie, la mère de Jésus, Marthe et Marie, c'est une autre Marie, les 2 sœurs de Lazare. Mais l'identité de ces femmes se fait toujours en référence à un homme. Elles sont toutes la femme, la mère ou la sœur d'un homme. Parmi toute cette cohorte de femmes bibliques, 3 femmes de l'Ancien Testament sont passées à la postérité en donnant leur nom à un livre biblique. Ruth, Esther et Judith. Le livre de Judith n'est présent que dans les Bibles catholiques et pas dans les Bibles protestantes.
Alors en même temps, un point commun entre ces 3 femmes, Ruth, Esther, Judith, c'est qu'elles sauvent leur peuple de l'extinction.
Et oui, et c'est flagrant pour Esther, cette reine juive qui vit, on pourrait dire sous couverture, à la cour du roi perse, dont elle est devenue l'épouse préférée, sans révéler qu'elle était juive. Parce qu'il est manipulé par ses conseillers, le roi ordonne l'extermination de tous les juifs de son empire. Et grâce à Esther, qui viole les lois en intervenant auprès du roi sans y être invitée et elle met ainsi sa vie dans la balance, cette menace sera contrée et le peuple juif pourra vivre en paix dans l'Empire perse. Judith, quant à elle, est une veuve qui, par un stratagème ingénieux et transgressif, sauve son peuple de l'assaut des armées du roi assyrien qui allait les décimer. Elle se présente à l'ennemi sous prétexte de trahir son propre camp, séduit le commandant en chef et dans la nuit lui tranche la tête, puis réussit à s'enfuir. Dans le livre de Ruth, il n'y a pas d'envahisseur, pas d'armée, pas d'ennemi. Ou plutôt si, l'ennemi, c'est le manque, le vide. Le manque de pain lors de la famine qui ouvre l'intrigue, le deuil des hommes peu après, de nouveau le manque de grains pour se nourrir et enfin le manque d'enfants qui permettrait d'assurer la lignée. Ce manque d'enfants a poussé d'autres femmes dont nous avons parlé les semaines précédentes à faire des choix radicaux et à mettre en jeu leur corps et leur vie pour sortir de cette impasse qui emprisonnait toute leur famille. Je pense aux deux filles de Lot, ainsi qu'à Tamar, la belle-fille de Juda. Ruth et Naomi vont aussi réussir à venir à bout de tous ces manques en unissant leur solitude, leur pauvreté, leur féminité, en faisant de leur sororité leur moteur. Je ne suis pas sûre finalement qu'il faille prendre le livre de Ruth comme une preuve du féminisme de la Bible. La Bible n'est pas féministe. Le monde dont elle parle et dont elle est issue ne l'était pas. Mais ce livre, le livre de Ruth, est la preuve que des femmes sont en capacité de prendre les initiatives et les décisions qui mèneront à la résolution des problèmes les plus essentiels. Pour autant, le livre de Ruth ne peut pas être réduit à un livre pour les femmes, mais parce qu'il est un outil de combat, il ouvre un horizon universel d'espérance.
Deuxième axe, pasteur Marie-Pierre Courneau.
Le livre de Ruth est une histoire de transgression. Aucun personnage de ce livre n'est là où on l'attend. Naomi transgresse, Ruth transgresse, Boaz transgresse. Ruth ne se comporte pas en gentille veuve qui devrait rentrer dans sa famille, mais décide d'unir sa solitude avec celle d'une autre femme, seule et veuve, Naomi. Elle lui fait une promesse d'alliance digne des plus grandes et belles déclarations d'amour et qui inspire encore de nos jours les engagements que prennent les époux lors de leur bénédiction de mariage. Boaz, contre toute bienséance, protège et privilégie Ruth dans son champ d'orge lorsqu'elle vient pour glaner, opération humiliante qui dit sa pauvreté, sa dépendance, sa subordination à autrui. Naomi encourage Ruth à se rendre sur l'aire de vannage de l'orge pour y passer la nuit avec un homme. En tant que dernier lieu d'une confrontation possible avec le monde des morts, c'est-à-dire avec la terre à qui l'on a arraché le grain, l'aire de vannage revêt un caractère presque sacré. Naomi, Ruth, puis Boaz, qui l'acceptent, outrepassent là tant les lois humaines que celles qui régissent les mondes mystérieux des morts et du divin. À tous ces titres, Ruth met sa vie en jeu dans cette descente qui pourrait être aux enfers et qui se révélera une étape vers la libération. Mais le plus important, ce qui a pour nous le plus de portée, c'est certainement que le récit lui-même transgresse. Le livre de Ruth nous apprend le geste que Jésus reprendra largement à son compte, de faire appel à des traditions anciennes, figées, qui n'étaient que contraintes stériles, pour les remanier, les transformer, les convertir en un outil porteur de vie. On l'a vu dans le livre de Ruth avec la loi du Lévirat, avec celle du glanage, celle du racheteur et celle de la sandale. Quand la raison d'être d'une règle est d'incarner elle-même la valeur, elle ne conduit à rien de fécond. Le travail de remodelage et d'interprétation permet d'y glisser, comme par une brèche, une visée créative. Et c'est ce que ne cessera de faire Jésus. Prenons l'exemple de l'épisode des noces de Cana, dans l'évangile de Jean. Jésus est invité avec sa mère et ses disciples à un dîner de noces. Le vin vient à manquer. Jésus transforme alors de l'eau en vin, par un mystère que le récit ne dévoile pas et qui nous reste inaccessible. Mais Jésus ne transforme pas n'importe quelle eau, pas l'eau à boire, pas le contenu des carafes sur les tables de la noce. Jésus fait remplir de grandes jarres réservées pour les rites de purification. Ces rites jalonnaient la vie des Hébreux de ce temps, et leur stricte observance était l'essence même de la relation à Dieu avec la pratique des sacrifices. Cette eau, Jésus la transforme en bon vin pour que les invités de la noce puissent partager et se réjouir ensemble. Jésus convertit l'essence même de la relation à Dieu. Ce ne sera plus l'obéissance à des règles, mais une invitation à se réjouir et se tourner vers autrui dans la confiance. Une des leçons du livre de Ruth, c'est que la vie est toujours à réinterpréter. Que ce qui est figé tue. Que la conversion ne va pas sans bouleversement. On retrouve ici le geste qui fut celui des réformateurs européens du XVIe siècle à l'origine du protestantisme. Ce geste est toujours d'actualité, peut-être même plus que jamais dans notre monde qui se sclérose et croit tenir sa survie dans l'affirmation de ses appartenances alors qu'il ne se rapproche que de sa mort. Et il en est de même pour nos institutions religieuses et notre pratique ecclésiale. Pour rester vivantes, pour rester des institutions et des pratiques d'êtres vivants, elles doivent vivre, c'est-à-dire s'adapter, se transformer, transgresser.
Finalement, Marie-Pierre Courneau, nous sommes nous-mêmes constamment interpellés par ce dilemme. Faut-il suivre et obéir, ou plutôt franchir et se renouveler ?
En tout cas, le livre de Ruth nous propose la deuxième voie. Faut-il y voir la vocation du peuple de Dieu, représenté dans la Bible par le nom hébreu, qui veut dire, dans la langue hébreu, ceux qui franchissent, ceux qui transgressent. Il ne s'agit évidemment pas de désobéir à tout va, mais de placer la vie au-dessus de la loi. D'obéir, en quelque sorte, à une valeur plus forte que celle des hommes. Tamar, Judith, Esther et Ruth mettent leur vie en danger pour faire gagner la vie. Entre la mort, où les confinaient les règles, les coutumes et les lois des humains, et la vie pour leur peuple ou leur tribu, elles font le choix de la vie, même au risque de la leur. Dans le livre de Ruth, le dénouement ne sera possible que grâce au mélange, à l'intégration d'une immigrée venant d'un autre pays, d'une autre religion. Même si dans sa déclaration d'amour à Naomi, au premier chapitre, Ruth dit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu », elle est presque jusqu'à la fin du livre désignée par l'expression « Ruth la Moabite » pour bien marquer qu'elle est étrangère et émigrée. Un homme épouse une femme étrangère d'une autre religion. De nos jours, on parlerait d'un couple mixte. Et ce serait banal si ce n'était pas précisément là que se dénoue l'intrigue. En effet, il faudra l'intervention d'une femme étrangère, d'une Moabite, pour sauver la famille d'Élimélec de l'oubli et de l'anéantissement par manque de descendants. Le noyau familial n'a pas pu trouver en lui-même les ressources nécessaires pour assurer sa pérennité. C'est en se tournant vers l'extérieur, en intégrant du différent, de l'autre, de l'étranger, que la vie a été possible. Et c'est précisément cet élément fondamental du récit qui permet de comprendre l'enjeu de ce livre et son contexte de rédaction. À quelle période de l'histoire du peuple hébreu ce récit de couple mixte ouvrant une brèche vers l'avenir grâce à un enfant prend-il tout son sens? Eh bien, c'est quand l'idéologie du moment est au repli identitaire, à la célébration de la pureté de la lignée du peuple de Dieu et au refus des couples mixtes. Transportons-nous au début du VIe siècle avant notre ère, lors de la chute du royaume de Judée et de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. Une petite partie de la population de Jérusalem est déplacée à Babylone. En exil, ces personnes déplacées, membres des élites de la société jérusalémite, mènent une intense réflexion sur les événements malheureux qui leur sont arrivés. En particulier, comment continuer à être juif alors que le temple de Jérusalem a été détruit et que de toute façon, on habite maintenant très loin à Babylone. Un peu plus tard, quand les Babyloniens sont à leur tour défaits par les Perses, les exilés sont autorisés à rentrer à Jérusalem. Mais cela ne se fera pas sans difficulté. Les exilés de retour et ceux qui sont restés sur place s'opposent. La communauté déplacée se considère comme les vrais héritiers de l'Alliance de Dieu, eux qui ont vécu les traumatismes et qui ont trouvé des solutions innovantes. La population restée à Jérusalem et alentour se considère évidemment comme la seule dépositaire de cette alliance, elle qui a tenu sur place et fait vivre la religion originelle. À un moment de ce conflit, la question de la pureté du peuple devient essentielle. Et les mariages mixtes avec des femmes étrangères sont condamnés, car considérés comme une marque d'infidélité à Dieu. On peut lire dans les livres d'Esdras et de Néhémie, que les hommes qui ont épousé des femmes étrangères, Moabites notamment, sont condamnés et les femmes sont renvoyées dans leur pays. C'est dans ce contexte que le livre de Ruth a probablement été écrit et il propose une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être fidèle à Dieu qui passe par la rencontre avec l'autre, avec le différent de soi.
Écoutez France Culture, Solae, le carême protestant avec la pasteur Marie-Pierre Courneau et la musique d'Alessandro Sgobbio. Une histoire de femme, une histoire de transgression. Quel est donc, Marie-Pierre, ce troisième et dernier axe que vous retenez?
Une histoire de descendance qui nous rejoint. La situation de base, la mort des hommes de la famille sans enfants, laisse les femmes seules pour résoudre ce casse-tête infernal, assurer la descendance alors qu'il n'y a plus d'hommes. Revenons un instant sur l'importance de cette descendance. Il est clair qu'à l'époque, la mortalité infantile est importante et l'espérance de vie est moindre que maintenant. Si l'on veut avoir des enfants qui atteignent l'âge adulte, il vaut mieux en avoir plusieurs et peut-être y en aura-t-il qui vivront suffisamment vieux pour s'occuper de leurs parents. Mais ici, il ne s'agit ni de s'occuper des parents ni d'avoir plusieurs enfants, mais d'avoir un fils qui pourra transmettre le nom des hommes morts, le nom de la famille.
La semaine dernière, nous avons entendu dans le dernier chapitre du livre de Ruth cette fameuse déclaration de Boaz qui fait office de serment de mariage et que nous lit à nouveau ici Laura Teinturier.
J'achète aussi pour femme Ruth, la Moabite qui était à Malone, pour établir le nom du mort sur son héritage et pour que le nom du mort ne soit pas retranché du peuple de ses frères ni de la porte de sa localité.
On voit dans les propos de Boaz toute l'importance du nom, de la transmission du nom. D'une part, l'héritage va se diluer entre différents héritiers aléatoires s'il n'est pas marqué du nom de l'ancêtre porté par son descendant. Et d'autre part, l'existence même des hommes qui sont morts est remise en cause si leur nom disparaît. C'est une préoccupation vitale, en quelque sorte, que nous partageons encore de nos jours avec la tradition de l'inscription des noms des défunts sur leurs pierres tombales. Et les conflits modernes qui ensanglantent notre planète, ici et là, nous ont montré malheureusement que si l'on veut l'anéantissement d'un peuple ou d'un groupe de personnes, la destruction systématique des pierres tombales et des registres de succession participe efficacement de la négation de leur droit d'exister. À l'époque de Ruth, ce n'est pas sur des pierres tombales que l'on écrit le nom des morts pour les faire perdurer dans le monde des vivants, mais sur la porte de la ville. On a vu l'importance du nom dans l'exemple des femmes invisibilisées dans la Bible parce qu'elles n'ont pas de nom. Ruth a un nom, et donc une place dans la Bible. Avec ce nom, elle donne une place à toute sa lignée, ascendante comme descendante. Elle donne une place à toutes les femmes. On a jusqu'ici beaucoup parlé des ascendants, qu'il fallait réinscrire dans l'histoire des êtres humains grâce à une descendance qui portera leur nom. Il est temps de s'intéresser à la descendance de Ruth. Les derniers versets du livre nous avaient révélé que l'enfant de Ruth, Obed, est le père de Jessé, qui est le père de David. Ruth, l'étrangère, est donc l'arrière-grand-mère du grand roi David. D'après la Bible, le grand roi David est choisi par Dieu, et ce sera lui qui unifie les royaumes du sud et du nord, qui ramène l'arche de l'Alliance à Jérusalem, où pourra lui être construit un temple. Le roi David représente dans l'Ancien Testament l'apogée des relations entre Dieu et les êtres humains. Mais pour la suite, nous allons voir du côté du Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, où nous lisons un extrait de la généalogie de Jésus.
Livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Phares et Zara. De Tamar, Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. De Rahab, Boaz engendra Jobed. De Ruth, Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est engendré Jésus, que l'on appelle Christ.
Beaucoup d'hommes cités, et puis peu de femmes, Marie-Pierre Courneau finalement.
Dans cette longue liste d'ancêtres de Jésus, il y a 5 femmes, seulement 5. 4 en plus de Marie. Il y a Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri. Tamar, on en a déjà parlé, avec son destin assez similaire à celui de Ruth. Une étrangère qui, détournant la loi du Lévirat au risque de sa vie, se prostitue pour assurer la descendance de son époux décédé. Elle donne naissance à des jumeaux, Pérets et Zéra, ici appelés Phares et Zara. La lignée continue à partir du jumeau Phares, donc Pérets, pour arriver à Salmon, le père de Boaz, ce qui est cohérent avec les derniers versets du livre de Ruth. Mais ce qui est nouveau pour nous dans l'évangile de Matthieu, c'est la mère de Boaz, Rahab. L'histoire de Rahab se trouve dans le livre de Josué. C'est aussi une étrangère, prostituée, qui sauve les deux espions hébreux qui s'étaient introduits dans la ville de Jéricho pour en préparer l'invasion. Boaz est donc le fruit d'une lignée de femmes hors normes, marginales parce qu'étrangères, prostituées et autonomes, affranchies de toute tutelle masculine et capables de prendre le destin en main pour le transformer au péril de leur vie. On comprend mieux pourquoi Boaz se sent concerné par la situation de Ruth et prête à s'engager pour elle. On arrive ainsi au roi David, le petit-fils de l'enfant de Ruth et Boaz, qui s'unit à la femme d'Uri pour engendrer Salomon, le roi qui construira le temple de Jérusalem. La femme d'Uri, c'est Bethsabée, une étrangère aussi, dont la vie ne vaudrait pas cher si David dévoilait leur relation alors qu'elle est mariée. Matthieu aurait pu choisir d'autres femmes bibliques qui sentent moins le soufre. Mais ce qu'il a choisi, c'est de montrer que la généalogie de Jésus s'inscrit dans l'humanité la plus triviale, dans l'humanité universelle, avec la présence de ces étrangères peu probables comme ancêtres de Jésus. Grâce à elles, nous sommes tous et toutes concernés, tous et toutes inclus dans cette généalogie de Jésus. Ce sont des femmes qui se sont battues pour que la vie puisse continuer. Elles arrivent dans le récit à un moment où l'espoir se cognait à un mur. C'est grâce à leur inventivité, voire leur transgression, qu'une brèche se fait et que l'espérance et la vie peuvent jaillir à nouveau et aller de l'avant. Grâce à elles, notre nom est marqué dans la généalogie de Jésus, aussi bien dans son ascendance que sa descendance, inscrivant notre nom dans l'universelle famille des enfants de Dieu. Il en va de notre résurrection et même de notre vie éternelle.
En ce temps de Pâques, faut-il voir dans l'histoire de Ruth un sacrifice sanglant, alors dans le sang de l'accouchement notamment, prélude à une résurrection qui se fait dans l'inscription de son nom dans la généalogie de Jésus ?
Avec elle, ce sont toutes les femmes, toutes les personnes étrangères, marginales, mais aussi toutes celles et tous ceux qui prennent des décisions, qui obéissent, qui prennent des risques, qui aiment, qui font bouger les choses, nous tous et nous toutes, en somme, qui sommes légitimement inclus dans la résurrection. Avec Ruth, nous passons de la mort à la vie. Et Ruth, c'est celle qui va prendre physiquement, corporellement, sa part dans le renouvellement de l'Alliance, mais qui ne survivra pas dans le récit à cette restauration. Elle sera finalement la grande absente, comme si elle payait de sa vie le prix de la promesse et de l'espérance. Mais elle est toujours présente pour nous, pour nous dire que notre libération se trouve dans la recherche de l'altérité. Ruth est l'ancêtre de Jésus, mais peut-être aussi sa grande sœur, celle dont il s'inspire pour dire l'universalité de la promesse et de la grâce de Dieu, et pour expérimenter que cette promesse et cette grâce ne sont vraiment réalisées que lorsque l'on se tourne vers l'autre, l'étranger, le différent, celui qui marque l'altérité.
Eh bien, rien à ajouter, tout est dit et bien dit. Merci beaucoup, pasteur Marie-Pierre Courneau, pour cet apport extrêmement riche durant ces 6 rendez-vous du carême protestant. Pour reprendre tranquillement tout cela, 2 possibilités s'offrent à nous, l'audio avec les podcasts à retrouver sur le site de France Culture et l'application Radio France, et puis le texte avec ce livre publié aux éditions Olivetan, Ruth, la pourvoyeuse de vie, reprenant l'ensemble de vos interventions, Marie-Pierre Courneau, avec quelques ajouts également pour ce carême protestant. Il est disponible sur leur site www.edition-olivetan.com. Au revoir Marie-Pierre.
Au revoir Jean-Luc.
Solae, le carême protestant, vous était proposé par la Fédération protestante de France en partenariat avec l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris. Merci à Sam Bakiast pour la réalisation et à Jean-Louis Deloncle pour la prise de son. Et maintenant, sur France Culture, vous retrouvez le carême catholique.